L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Gilles.
Et vous recevez ce matin le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Notre invité du matin, c'est le général Putz. Général, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, les chefs d'état-major des armées australiennes et néo-zélandaises étaient sur le territoire hier. Une visite courte, mais une visite assez rare. Qu'est-ce qui la justifie? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus tous les deux?
Les deux chefs d'état-major australiens et néo-zélandais voulaient reprendre un cycle de visites qu'ils avaient déjà lancé en 2020. Ils étaient venus ici à Nouméa il y a 3 ans. Ils avaient interrompu ces visites du fait du Covid, bien évidemment. Leur objectif est de faire une tournée régionale auprès des forces partenaires de leurs forces armées. Et ils commençaient par la Nouvelle-Calédonie.
Alors, vous étiez à Bouraille, vous avez visité le cimetière néo-zélandais notamment.
Oui.
Et le RSMA. Pourquoi ces choix?
Exactement. Alors, d'abord parce que, comme ils étaient venus en 2020 et que ce sont les deux mêmes chefs d'état-major et qu'ils ont de la mémoire, je ne voulais pas leur reproposer le même programme qu'il y a 3 ans. Et il m'a semblé qu'il était nécessaire de rendre hommage aux soldats néo-zélandais qui sont enterrés au cimetière de Bouraille, sur ce petit bout de terre néo-zélandaise que la France a offerte à la Nouvelle-Zélande, d'autant que le chef d'état-major néo-zélandais ne connaissait pas l'endroit. Et ensuite, au RSMA, il me semblait également intéressant de leur montrer, même si le RSMA ne fait pas partie des FANC à proprement parler, de leur montrer ce que les armées et l'État pouvaient organiser pour la jeunesse calédonienne. Et ils ont été très intéressés.
Alors, quand on voit des visites internationales dans la région Pacifique, on parle beaucoup de l'axe Indo-Pacifique. À votre niveau, ça se traduit comment? Quelle est la coopération, l'aide que vous pouvez avoir ou la manière de travailler avec ces pays?
Alors, la manière dont les FANC vivent cet axe Indo-Pacifique, cette stratégie de la France pour l'Indo-Pacifique, c'est l'un des piliers très importants, essentiels de notre action. La coopération régionale, on la voit à travers deux grandes lignes d'opération. La première, c'est développer l'interopérabilité avec les forces partenaires, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais également les États-Unis, le Japon dans une moindre mesure, parce qu'ils viennent ici, mais ils viennent un peu moins souvent. Et puis, l'autre axe, c'est de renforcer la résilience et la stabilité régionale à travers des coopérations que l'on mène avec les États insulaires du Pacifique, avec nos partenaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Fidji, des Tonga, voire du Vanuatu, qui n'a pas d'armée, mais qui a une force de police qui est apte à certaines opérations. Et avec ces pays-là, et soit de manière bilatérale, soit de manière multilatérale avec les Australiens et les Néo-Zélandais notamment, nous travaillons au renforcement de leurs capacités et au renforcement de la connaissance mutuelle qui nous permet de faire face à des défis qui sont communs, à commencer par le premier défi qui touche les pays de la région, qui est celui des conséquences du changement climatique.
Alors, quels sont les instruments? Il y a notamment l'accord France qui est... Alors, comment ça se traduit? Est-ce qu'il fonctionne encore bien aujourd'hui ou est-ce qu'il faut l'adapter au jour le jour en fonction des besoins?
L'accord France qui a eu 30 ans en décembre 2022 existe toujours, mais bien évidemment il faut l'adapter. Il a été fait. Alors c'est une déclaration commune. C'est pas un accord formel, mais c'est une déclaration commune de l'intention des trois pays, France, Australie et Nouvelle-Zélande, de coopérer ensemble face aux catastrophes qui peuvent toucher la région. À l'époque où il a été signé, seuls ces trois pays avaient les moyens de faire face à ces conséquences-là. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que la plupart des États océaniens ont développé eux-mêmes des systèmes d'alerte, des systèmes de veille, des organisations qui permettent de coordonner les efforts. Ils ont également des moyens. Et donc, la coordination régionale doit s'envisager différemment, d'autant qu'il y a une volonté qui s'inscrit dans le cadre du Forum des îles du Pacifique de développer une architecture de sécurité globale en Océanie. France, dans ce domaine, peut tout à fait continuer à exister avec trois pays qui disposent de moyens de moyens importants. Et les moyens français sont ceux qui sont prépositionnés ici, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, mais également ceux qui peuvent venir de métropole, c'est important. Et donc France peut tout continuer à appuyer les efforts de la région pour faire face à ces conséquences. On l'a vu d'ailleurs il y a pile un an, après l'éruption du volcan au Tonga, le 15 janvier 2022, quand les trois pays concernés ont été parmi les tout premiers à intervenir.
À la coopération entre les forces armées, c'est aussi bien sûr les manœuvres militaires que vous menez régulièrement. Croix du Sud, c'est encore prévu cette année et ça doit prendre de l'ampleur même.
Oui, l'exercice Croix du Sud que vos auditeurs connaissent déjà, parce que ça fait plus de 20 ans qu'il existe, reprend cette année après 5 ans d'interruption dû au Covid. En fait, la dernière édition devait avoir lieu en 2020, elle a été annulée. En 2022, on a préféré repousser un peu pour le faire dans un contexte plus facile, et de fait aujourd'hui les barrières sont tombées et donc les forces partenaires qui sont désireuses de participer à l'exercice viennent en masse, et ça sera effectivement probablement, en tout cas à ce stade de la préparation, on peut dire que ce sera l'exercice Croix du Sud le plus ambitieux ou rassemblant le plus de militaires depuis que l'exercice existe, puisque nous nous attendons à avoir au total plus de 3500 militaires venant de 17 pays différents. Alors avec une bonne moitié de militaires français, dont 800 qui viendront de métropole, puisqu'on recevra un groupe amphibie avec un porté-hélicoptère amphibie, une frégate, mais également un avion, des troupes venant à bord de ces moyens. Et puis il y aura environ 1700 étrangers venant de 16 pays, alors américains, australiens, néo-zélandais, qui sont des habitués de l'exercice, mais également tous les États océaniens qui disposent de forces, le Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji, les Tonga et le Vanuatu, des États venant d'Asie du Sud-Est, des Canadiens, et puis même un pays européen, puisque nous devrions recevoir un détachement néerlandais.
C'est le contexte géopolitique actuel qui justifie l'ampleur que peut prendre cet exercice et la volonté d'autant de pays d'y participer.
C'est la conscience que dans le Pacifique en général et en Océanie également, les enjeux stratégiques augmentent. C'est surtout, je pense, la prise de conscience que les catastrophes qui peuvent toucher la région ne sont plus que des événements climatiques. Ils peuvent devenir des événements stratégiques, ils peuvent déstabiliser les régions. Et donc il faut savoir faire face très rapidement, en réaction, à ce genre de situation. Et donc c'est une volonté commune de pouvoir agir. Alors c'est pas seulement les militaires qui agissent, bien évidemment, dans le cas de telles circonstances. En cas de catastrophe, c'est aussi d'abord des moyens civils qui doivent intervenir. Les agences de gestion de crise que les États océaniens mettent en œuvre sont d'abord des instances civiles, et les armées, dans ces cas-là, fournissent un concours. Elles fournissent des moyens capables d'agir dans une situation de chaos, d'agir grâce à leurs moyens de planification, leur habitude, leur expérience de la planification et de la conduite des opérations dans des situations un peu difficiles. Et puis il y a également tout ce qui doit être fait en amont, avant les crises, renforcer la résistance naturelle des États et des sociétés face à ces catastrophes-là.
Alors l'actualité des forces armées, c'est aussi l'annonce du premier patrouilleur d'une série de 6 qui doit arriver en Nouvelle-Calédonie. Il s'appelle l'Auguste Bénébigue, il a appareillé et se dirige vers la Calédonie. Pourquoi la Calédonie est-elle servie, entre guillemets, en premier? Et à quoi doivent servir ces patrouilleurs?
Alors, ces nouveaux patrouilleurs vont effectivement représenter un vrai changement. Ils remplacent nos patrouilleurs dits P400, la Glorieuse et la Moqueuse, qui ont rendu d'éminents services, qui continuent à en rendre pour la Glorieuse, puisqu'elle continue à mener ses missions jusqu'au mois de juin prochain. Mais nous passons à une génération nouvelle, à des capacités supérieures, une plus longue allonge. Ils seront capables de rester plus longtemps en mer, ils seront dotés de drones, ils auront des moyens de communication supérieurs. Et si on le déploie d'abord en Nouvelle-Calédonie, c'est d'abord que ici, dans le Pacifique, l'étendue des zones économiques exclusives, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, n'est pas à rappeler. 2 millions pour Nouvelle-Calédonie, 7 millions pour la Polynésie française. Mais ici, en Nouvelle-Calédonie, nous sommes aussi au cœur de l'Océanie, à proximité proximité de nos partenaires principaux avec lesquels nous coopérons très, très régulièrement dans le domaine de la sécurité maritime ou dans d'autres domaines d'ailleurs. Et donc, il semblait assez naturel que ce premier bateau de cette nouvelle série arrive ici, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Ça sera le cas donc au début du second trimestre, au mois d'avril. Le bateau, effectivement, a quitté la métropole et il navigue actuellement en Atlantique. Il aura un certain nombre d'étapes avant d'arriver à Nouméa. Ça sera un événement d'ampleur, on va dire, nationale. C'est premier bateau d'une nouvelle classe. Ça sera un événement également pour la Nouvelle-Calédonie et pour la population qui sera invitée à venir voir l'arrivée de ce bateau. Mais qu'on verra surtout, j'espère qu'on le verra moins à Nouméa que dans la zone économique exclusive, non seulement de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna aussi, parce que les FANC doivent surveiller et protéger cette zone économique exclusive, puis également dans les zones économiques exclusives de nos pays partenaires.
Puisqu'il sera appelé à patrouiller comme son nom l'indique. Et donc,
beaucoup, on espère qu'il sera de nombreux jours en mer.
Alors, le chef de l'État a annoncé récemment, lors de ses vœux aux armées, une augmentation de 400 milliards d'euros du budget des forces armées entre 2024 et 2030. Pour le commandant des FANC, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon signe. Et en quoi est-ce que ça peut concerner éventuellement le Pacifique ou la Calédonie ?
En tant que commandant des FANC, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des Français, de savoir que leur défense sera assurée avec davantage de moyens. C'est un choix politique aussi, mais c'est surtout la conscience que le monde dans lequel nous sommes n'est pas plus sûr, n'est pas plus stable, et que nous devons nous préparer, nous devons nous adapter. Et cela demande des moyens, cela demande des efforts. Alors ça sera un effort très important, oui, la précédente loi de programmation militaire, qui est toujours en vigueur, qui portait sur les années 2019 à 2025, prévoyait déjà 295 milliards d'euros pour la défense. La prochaine loi, qui a été anticipée d'ailleurs, puisqu'elle va débuter dès 2024 et s'étendre jusqu'à 2030, prévoira 400 milliards d'euros de ressources budgétaires, plus 13 milliards d'euros de recettes exceptionnelles, et cela nous permettra d'atteindre de doubler en gros. En 12 ans, le budget de la défense aura doublé si cette loi de programmation est menée jusqu'à son terme. Je note d'ailleurs que l'actuel a été exécuté à l'euro près et que c'est une première parce que ça faisait plusieurs décennies que ça n'était pas arrivé. Donc en fait, avec cet effort-là que la nation consent pour la défense de toute la nation, le métropole comme les Outre-mer, on retrouve un niveau d'effort de défense qui comparable à celui de la fin des années 70 ou du début des années 80.
C'est le climat international, évidemment, qui justifie cet effort particulier.
Bien évidemment. L'époque des dividendes de la paix est derrière nous. On voit qu'avec la guerre en Ukraine, la guerre entre deux États revient en Europe, ce qui était impensable encore il y a quelques années. Il y a l'instabilité aux abords de l'Europe, en Méditerranée, au Proche-Orient, en Afrique et au Sahel. Et puis il y a les enjeux stratégiques dans les vastes étendues de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, les enjeux sécuritaires que nous connaissons ici, la compétition stratégique, mais également la lutte contre les conséquences du changement climatique. Il y a donc beaucoup de raisons d'augmenter notre effort de défense et de se tenir prêt, non pas face à ce qui se passe aujourd'hui, mais l'objectif de la loi de programmation militaire, c'est bien de se préparer aux conflits, aux confrontations de demain, fin des années 2020, à l'horizon 2030. Et cela demande un effort important en matière de ressources, mais ça demandera aussi aux armées de savoir s'adapter, de savoir renouveler, de savoir notamment œuvrer dans les nouveaux champs de conflictualité que l'on connaît aujourd'hui.
Quand il y a une augmentation comme ça, est-ce que la Calédonie en bénéficie d'une manière ou d'une autre, et est-ce qu'elle a des besoins en renouvellement, en enrichissement, si on peut dire, de son matériel de défense ?
De manière générale, les Outre-mer sont particulièrement concernés par cette loi de programmation militaire. Le président de la République et le ministre des Armées ont eu l'occasion de dire qu'elle se pencherait avec attention sur la défense et la sécurité des Outre-mer. Le président a rappelé lors de son discours des vœux aux armées vendredi dernier que les Outre-mer constituaient une constellation stratégique à partir de laquelle la France pouvait non seulement veiller à ses intérêts, protéger ses populations, mais également assurer ses coopérations et renforcer la stabilité des différentes régions dans lesquelles se trouvent ces territoires ultramarins. Donc oui, les Outre-mer bénéficieront de cet effort de défense. Le président a appelé à ce que les forces armées soient davantage présentes et davantage actives dans les Outre-mer et dans les régions avoisinantes. Cela passera soit par des moyens supplémentaires, soit par davantage de présence de moyens venant de métropole. Pour l'instant, il y a tout un tas de décisions qui restent à prendre. Le président a lui-même annoncé qu'il présenterait prochainement, je n'ai pas encore la date, la manière dont cette loi de programmation se déclinerait spécifiquement dans les Outre-mer. Et bien évidemment, il a cité le Pacifique, et le Pacifique, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est la Polynésie française, et on voit bien que la Nouvelle-Calédonie, qui est située au cœur de l'Océanie, en tout cas, qui au cœur de la... des grandes masses démographiques de l'Océanie, puisque sur les 45 à 50 millions d'habitants de la région, on en trouve plus de 4/5 à une distance d'avion de Nouméa. Il y a bien évidemment un enjeu particulier.
Nous en reparlerons quand il y aura plus de détails de la part du chef de l'État. Un dernier mot général sur les vacances scolaires, c'est la période notamment des préparations militaires. On s'aperçoit que les jeunes calédoniens sont toujours très, très attirés par l'armée et par les métiers de la défense.
La Calédonie, effectivement, et la jeunesse calédonienne s'intéresse beaucoup à la sécurité en général et à la défense. On le mesure à travers l'engouement pour l'engagement dans les forces armées. Je dis souvent que le rapporté à la population, le taux d'engagement des jeunes calédoniens est 4 fois celui de la moyenne nationale. Et puis on le voit aussi à travers tout l'intérêt qu'ont les jeunes calédoniens pour le RSMA, bien évidemment, mais également pour la réserve, puisqu'ils s'engagent assez nombreux dans les réserves de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air. Et puis qu'ils viennent également fréquemment lors des préparations militaires, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, comme vous l'avez cité, préparation militaire terre, préparation militaire parachutiste, préparation militaire marine qui a lieu en ce moment, ou même préparation militaire air qui a également lieu en ce moment. Donc il y a un véritable engouement de la jeunesse, un véritable intérêt, et c'est très bien parce qu'on le dit, hein, la jeunesse doit s'engager. Cette forme d'engagement au service de ses concitoyens, au service de la collectivité est important et il est louable et je l'encourage.
Merci, Général. Un dernier mot, peut-être encore, les grandes lignes, les lignes forces pour les FANC en 2023, c'est quoi?
En 2023, nous continuerons bien évidemment à assurer la défense et la protection, non seulement de la Nouvelle-Calédonie, de la surveillance de la zone économique exclusive, sans oublier Wallis et Futuna, la protection des populations à travers toutes les interventions que nous faisons. Nous en avons fait beaucoup en 2022. Nous continuerons bien évidemment sous la coordination du haut-commissaire à intervenir à chaque fois que c'est nécessaire sur le territoire. Mais avec la fin des barrières du Covid que l'on a vu tomber une à une au cours de l'année 2022, ça sera aussi une année marquée par la coopération régionale, avec l'exercice Croix du Sud dont j'ai déjà parlé, qui sera une étape très importante, avec différents rendez-vous également ici à Nouméa, un séminaire sur la sécurité maritime qui aura lieu en mars et qui montre que la France a une capacité d'entraînement dans la région. Avec également la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud, qui sera organisée par le ministre des Armées ici à Nouméa à la fin de l'année, plus la participation des FANC à beaucoup d'exercices, des exercices que l'on va organiser ici sur le territoire avec des forces partenaires, des forces australiennes, néo-zélandaises, des forces de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Fidji, des Tonga, sans doute du Vanuatu aussi, avec des forces japonaises qui viendront du Japon pour la première fois participer à un exercice. Et puis également la participation des FANC à de nombreux exercices régionaux, comme un exercice de haute intensité en Australie au mois de juillet, au mois d'août, au cours duquel nous aurons une participation inédite. Donc beaucoup d'activités, beaucoup de rayonnement régional pour tenir le rang de la France ici dans la région à partir de la Nouvelle-Calédonie.
général plus commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Merci d'accepter votre invitation.
Merci beaucoup, Elisabeth.